France Musique.
France Musique, 8h30.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Et notre invité ce matin est un écrivain, un romancier. Il a été journaliste également. Grand prix du roman de l'Académie française, c'était en 2010 pour Nagasaki. Bonjour, Éric Faye.
Bonjour.
Votre nouveau roman, La télégraphiste de Chopin, vient de paraître au Seuil. C'est l'un des livres de cette rentrée littéraire. Une rentrée que vous vivez comment quand il y a 600 livres qui paraissent en même temps ?
J'écoute beaucoup de musique.
Et vous écoutez toujours beaucoup de musique depuis longtemps ?
Pour m'abstraire de cet embouteillage.
C'est un stress ?
C'est toujours un stress si on se laisse porter par le stress, mais si on choisit d'être un pied dedans, un pied dehors, tout va bien.
Alors comment rencontrer ses lecteurs, son public ? C'est par exemple en venant ce matin sur France Musique, j'ai beaucoup aimé ce livre, ce roman. Vous avez des fidèles qui vous lisent à chaque roman, qui aiment votre style, votre univers, votre écriture ?
Je crois, oui. C'est troublant, mais j'en ai effectivement, oui. Je ne les ai pas comptés.
Votre roman La télégraphiste de Chopin met en scène Le fantôme de Frédéric Chopin, ou du moins un fantôme que visiterait une certaine Vera. Ça se passe à Prague dans les années 90, on va en parler. C'est ce qu'elle prétend en tout cas, cette Vera, leur apparition fantastique ou supercherie médiatique et commerciale, telle est la question posée au début. On y trouve plusieurs pianistes, l'un est fictif, Peter Katin, peut-être une évocation de Rodolphe Serkin.
Ah, il a bel et bien existé, Peter Katin. Et alors, je m'inspire du cas extraordinaire de Rosemary Brown, qui dans les années 60-70 a affirmé qu'elle recevait plusieurs compositeurs, notamment du 19e siècle, pour prendre sous la dictée des partitions posthumes qu'il leur dictait. Et Peter Katin a été un des interprètes à l'époque, un des pianistes qui ont cru à ce que disait Rosemary Brown.
Donc il y a des fondements réels et puis des noms de pianistes pour le coup très connus. Le fantôme de Chopin dit d'ailleurs à sa télégraphiste, sa secrétaire, comme vous l'écrivez, cette dame qui s'appelle Vera. Ils disent qu'ils pensent de leurs interprétations. Alors il y a Martha Argerich, Ivo Pogorelitch qui sera à votre place demain matin sur France Musique, Samson François ou encore le grand Vladimir Horowitz.
Thank you.
Frédéric Chopin, étude en ut dièse mineur, opus 10, numéro 4, Sous les doigts d'Horowitz, de Vladimir Horowitz. C'est le titre d'une passionnante série diffusée tout cet été sur France Musique, signée Emmanuel Franck, que vous pouvez réécouter sur francemusique.fr. Horowitz qui est cité, apprécié par le fantôme de Chopin dans votre livre, Eric Faye, La télégraphiste de Chopin, qui vient de paraître au Seuil. Pourquoi vous êtes plongé dans cette histoire au commencement? C'est vraiment cette Rosemary Brown dont vous nous disiez un mot?
Oui, ça a été un choc de découvrir l'existence de cette femme qui est morte il y a déjà 18 ans. Et il est vrai que depuis sa mort, personne n'a éventé quelques supercheries, personne, ses enfants ou des amis, ou personne. En général, quand quelqu'un est l'auteur d'une grande mystification, ça finit toujours par se savoir.
Et or, il y en a eu d'ailleurs hein, dans l'histoire, y compris de la musique.
Dans tous les arts, oui, bien sûr. Or là, personne n'a ébruité quoi que ce soit. Alors, certains, les mauvaises langues disent oui, mais c'est parce que c'était médiocre, ce sont des improvisations, des imitations très, très moyennes. Oui, mais à l'époque de Rosemary Brown, Leonard Bernstein avait souhaité la rencontrer pour lui parler des gens qu'il a visités. Donc, elle réussissait à faire marcher son monde au point qu'elle avait réussi à enregistrer deux disques chez Decca, Philips, je crois, avec des extraits de parce que il faut savoir, ce qui est passionnant avec ce cas-là, c'est qu'elle n'avait aucune culture musicale. C'était une femme de chambre, elle travaillait aussi dans des cantines, il faut voir le milieu, mais elle était médium, elle disait être médium. Et moi, ce qui m'a intrigué et ce qui m'a conduit à vouloir écrire, c'était qu'elle avait pris sous la dictée, disait-elle, des centaines de partitions. Et aussi, j'ai toujours adoré les histoires de mystification dans les arts, que ce soit en musique, en peinture, en littérature. Et là, je voulais mener mon lecteur en bateau sans qu'il sache trop si on allait vers une mystification, une supercherie géniale, avec peut-être un nègre qui se planque derrière cette dame quinquagénaire, ou alors peut-être quelque chose d'autre, du ressort d'un cerveau malade, d'un cerveau extraordinaire qui aurait des facultés que n'a pas le commun des mortels.
Et c'est toute l'histoire de cette télégraphiste de Chopin avec ce journaliste, reporter pour la télévision nationale tchèque, qui on confie un documentaire pour révéler la supercherie. L'intention est là dès le départ, c'est trouver la faille, c'est enquêter, suivre en filature cette femme qui, elle, dans votre livre, est aussi une femme de peu, qui n'a pas étudié, oui, qui connaît pas la musique, et le lecteur va s'interroger s'agit-il vraiment d'une supercherie? Comment va-t-on la débusquer? Et puis petit à petit on va dans différentes propositions, dans différents sens, jusqu'à l'épilogue qu'on ne révélera évidemment pas. Vous nous avez apporté un disque, Eric Faye, de quoi s'agit-il?
Alors j'ai fini par retrouver ça, un disque qui à l'origine avait été
en japonais,
fabriqué dans les années 70, sans doute, en version micro-sillon, et de différentes partitions qu'aurait prises sous la dictée Rosemary Brown. Alors certaines sont... Le compositeur qui l'a visité le plus était Franz Liszt. Ensuite, il y avait Chopin. Et puis, il y en a d'autres qui sont venus la voir parce qu'elle était très polyvalente, cette dame.
Grieg, Brahms, ouais, Debussy,
ouais, ouais,
même.
Oui, 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 oui. Oui, c'est étonnant. Mais enfin, il faut dire de l'avis des musicologues, de certains que j'ai pu interroger ou sur lesquels j'ai pu lire, que c'était pas extraordinaire, c'était assez sommaire d'après eux, et on ne pouvait pas vraiment... Le bluff avait ses limites. Alors que le personnage de Vera Foltynova, que j'ai voulu choisir, mettre en scène dans mon roman, lui... elle, pardon, fait des accouches de partitions qui ont tout l'air de copies conformes, quoi.
Alors, on va en reparler dans un instant, mais d'abord, écoutons cette musique interprétée par ce Peter Katin, qui existe donc, pianiste bien réel, qui a enregistré pour Descartes cette impromptu en mi bémol majeur inspirée par Frédéric Chopin ou dictée par Frédéric Chopin à Rosemary Brown. Un des deux musicologues dont il attendait la vie lui téléphona le surlendemain d'emblée. Il dit avoir reconnu le chemin harmonique de Chopin, la marque de fabrique de ses trouvailles, sans parler du sfumato, du rubato et de certains de ses tics inimitables que nul ne remarque s'il n'a pas une pratique poussée de son œuvre. Il avait noté aussi son sens de la vision et, pour reprendre ses mots, la maîtrise organique de ses compositions qui faisait d'elle tout autre chose qu'une imitatrice des styles de surface. Le musicologue n'avait donc aucune réserve. Ce sont quelques lignes du télégraphiste, de la télégraphiste de Chopin, Eric Faye, sous votre plume parue au Seuil. Dans ce livre et dans cette enquête, le journaliste va donc rencontrer des musicologues et leur demander leur avis sur ces compositions prises, dictées par le fantôme de Frédéric Chopin à cette mystérieuse Vera.
Alors, le journaliste est très matérialiste, il est issu d'une famille de communistes athées, juste après la révolution de velours, et il a bien l'intention de démonter une supercherie, mais il va se heurter à le mur du réel, parce que rien n'est exactement conforme à ce qu'il souhaitait pouvoir démontrer. Et ça va être au point qu'il va recruter un ancien espion des services secrets tchécoslovaques pour avoir recours à des méthodes qui ne sont pas celles normalement du journalisme et pour pouvoir mener une enquête beaucoup plus de surveillance beaucoup plus approfondie.
Avec des écoutes téléphoniques, on peut raconter des écoutes téléphoniques,
oui,
des lettres qui sont ouvertes.
Des filatures, oui, les moyens classiques. Il a encore les vieilles machines à vapeur pour décoller les lettres, pour essayer de... Parce que ce qui les obsède, c'est de savoir s'il n'y a pas un nègre génial qui se cache et qui, pour une raison ou une autre, voudrait rester caché pour faire un gigantesque coup. Il y a eu des exemples comme ça, je cite dans La Télégraphiste, dans le roman, le cas de ce japonais Samuragochi, qui avait fait croire pendant longtemps qu'il était le compositeur, on le surnommait le Beethoven japonais, il faisait croire même qu'il était sourd, enfin pour vraiment, il avait des lunettes de soleil, des longs cheveux, et tout le monde croyait qu'il était le compositeur de ses œuvres, et en fait il y a le nègre qui a fait son coming out à un moment et tout s'est effondré comme un château de cartes.
Parce que dans le livre, dans votre livre La Télégraphiste de Chopin, Eric Faye, là on entendait un extrait de ce disque Rosemary Brown's Music, inspiré par Chopin, entre autres chez Decca, mais vous citez une vraie firme, un label tchèque, Supraphone. Et c'est l'enjeu, c'est aussi, y a-t-il un immense coût médiatique et commercial qui est derrière cette histoire?
Oui, le journaliste cherche à quel est le moteur de toute cette opération, s'il y en a un, il se dit c'est forcément l'argent quelque part, donc c'est Supraphone, voilà, c'est la grande maison de disques tchèque qui essaye de monter un coup et qui a recruté un professeur de piano talentueux qui a fait les conservatoires et qui sait composer à la manière d'eux, et on essaye de faire passer des vessies pour les lanternes, une vieille cantinière pour une médium en communication avec l'au-delà.
Pourquoi avoir ancré cette histoire dans les années 90 à Prague et non pas, par exemple, en Pologne ?
Alors, il y a deux questions. Là. Il y a pourquoi à Prague et pourquoi les années 90 ? Alors, je vais prendre Prague d'abord. Prague est pour moi une ville où j'ai un peu habité, une ville qui me fascine pour sa littérature, mais aussi son architecture. Et pour moi, c'est aussi la ville de la musique. Mozart qui a créé un opéra là-bas, qui a vécu, mais aussi je suis très sensible à la musique tchèque, à Dvorak, à Josef Suk et à Janáček, bon, et d'autres. C'est une musique qu'on connaît, qu'on joue relativement rarement, malheureusement, dans les concerts à Paris. Et c'était pour moi le biotope qui était nécessaire. Et c'est aussi la ville du fantastique, de Gustave Meyrink, de Kafka. Je voulais ancrer ce roman à la lisière, toujours du fantastique. Mais on est dans le réel, mais il y a toujours la possibilité du surnaturel et du fantastique. Et deuxième partie de la question, pourquoi à l'époque, il fallait que je sois à cheval sur deux systèmes. L'ancien système athée communiste, et l'apparition d'un nouveau système où la parole était libérée avec la démocratie et où Rosemary Brandt pouvait dire au grand jour ce qu'elle faisait, ce qui était condamnable sous le régime communiste d'être médium.
De la 7e symphonie de Dvorak, le Scherzo Vivace, c'était l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Raphaël Kubelik, grand chef tchèque que vous citez d'ailleurs, Eric Fey dans La Télégraphiste de Chopin. Il y a beaucoup de noms, c'est très documenté.
Ben, c'est-à-dire qu'elle, à certains moments, pour les ressorts de l'intrigue, elle se rend dans un cimetière Visegrad, qui est dans Prague, où sont inhumées beaucoup de figures artistiques ou du mouvement de la Renaissance tchèque, etc. Et des chefs d'orchestre, voilà.
Kubelik, par exemple.
Kubelik, par exemple.
On parlait de ces filatures, de ces observations dans l'hôtel d'en face de ce petit appartement que vous décrivez. Je trouve que dans votre écriture, dans ce livre, il y a quelque chose d'assez cinématographique. On pourrait assez aisément imaginer une adaptation au cinéma de cette histoire.
Ça, j'ignore, mais dans le cimetière...
Lisons le livre d'abord.
Le cimetière de Visegrad, c'est pour moi un clin d'œil quand elle va se rendre sur une tombe et dont on s'aperçoit quel est son nom. Il y a un mystère autour d'une tombe. C'était un clin d'œil à Hitchcock, à Vertigo, à la tombe de Carlota Valdés, dans un cimetière de San Francisco. Voilà, bon, ça c'est... Après, je ne sais pas, moi je suis allé sur le terrain, l'hôtel existe, le Lunique, hein, il existe bel et bien, et j'ai fait mes repérages. Parce que c'est une ville que j'aime beaucoup, quoi. Prague, s'il n'y avait pas la barrière de la langue, c'est une ville où j'aimerais revenir et vivre plus longtemps. J'aime beaucoup l'atmosphère la mentalité des Tchèques qui se prennent pas au sérieux, qui ont beaucoup d'humour, et c'est important.
Eric Fay, vous évoquez ces repérages. Vous citez aussi à la fin du livre Jean-François Zigel qui vous a aidé. De quelle façon, enfin, vous avez été beaucoup documenté. J'imagine que vous êtes complètement imprégné de la musique de Frédéric Chopin en écrivant
livre. Oui, Jean-François Zigel faisait, quand j'écrivais le livre, des improvisations sur certains compositeurs de son choix. Et j'étais allé lui parler, et on a échangé par la suite, et il m'a un peu expliqué comment on pouvait composer à la manière d'eux, comment c'était pas quelque chose d'absolument exceptionnel, mais il faut une forte formation musicale, bien sûr. Chopin, je dirais que ça fait depuis l'enfance que je m'imprègne de Chopin. C'est pour moi le compositeur du 19e qui me touche le plus, qui va peut-être le plus loin dans l'expression des sentiments humains. Et puis il y a un génie mélodique exceptionnel, je trouve. C'est chez Chopin, il nous surprend. Par exemple, je pense au Scherzo numéro 4, où il y a brutalement une envolée joyeuse qui dure le temps de quelques mesures, comme si au-dessus des brumes de sa mélancolie, il y a ce feu d'artifice, et c'est extraordinaire, voilà. Et puis j'avais besoin de... Bon, Chopin, j'ai centré sur la figure de Chopin parce que j'avais besoin d'un compositeur qui était mort jeune. Il est mort à 39 ans, je crois. Donc, je ne peut pas m'empêcher de penser à tout ce qu'il aurait pu composer s'il était resté en vie jusqu'à l'âge de 60, 70, comme on pouvait faire quand même à cette époque-là. Et j'imagine que s'il y a un instant de conscience après la mort, il a dû regretter, parce qu'il devait avoir beaucoup de projets d'idées en germe et qu'il n'avait pas encore. Donc potentiellement, l'idée d'un compositeur qui, de façon posthume, essaye de placer ce qu'il n'avait pas pu faire, pouvait être plausible.
Eric Fay, vous y croyez ?
Non, mais la question du romancier n'est pas de dire ce qu'il pense à son lecteur, c'est de le guider vers des pistes, parfois vers de fausses pistes, parfois de l'intriguer ou de l'inquiéter ou de lui poser des faits. Si à la fin d'un livre, mes lecteurs se posent des questions qu'ils ne se posaient pas au début du livre, là je suis heureux. Parce que il s'est passé quelque chose dans la communication. Il y a eu des doutes qui sont passés. L'écrivain est là pour faire douter, pour poser des questions. Ensuite, ce sont les lecteurs qui se font leurs idées. Laissons-les.
La télégraphiste de Chopin, Eric Fay, roman paru au Seuil, que moi j'ai lu comme un polar, ça vous vexe pas ?
Non, entre espionnage et polar, j'utilise les codes du polar, et tout à fait.
Merci Eric Fay.
Merci à vous.
Thank you.
À réécouter sur francemusique.fr.